Chapitre 29. Dans la bibliothèque, les trois grandes fenêtres qui occupaient pratiquement tout le mur du fond laissaient entrer la pâle lumière de la fin d'après-midi. Toujours aussi violente, la pluie martelait les vitres et les constellait de ruisselets tourbillonnants. Les trois murs aveugles de la petite salle étaient tapissés de rayonnages en vieux chêne. Une grande table et quatre chaises occupaient pratiquement tout l'espace central. Au milieu de la table, une imposante lampe à quatre réflecteurs éclairait généreusement toutes les positions de lecture. D'un simple geste, Nietzsche embrasa les quatre mèches de l'ingénieux dispositif. Aussitôt, une douce et chaude lumière adoucit l'atmosphère de la pièce. Curieusement, nota Richard, le sort qui neutralisait le pouvoir des pratiquants de la magie étrangers à la ligne érale ne semblait pas affecter le pouvoir de l'ancienne maîtresse de la mort. Burdine se campa devant les étagères placées à droite de la porte. Dans son journal, pas très loin de l'endroit où il parle du livre qui n'aurait pas dû être dupliqué, Colo laisse entendre que les copies ont été faites par les hommes qui soupçonnaient Barakus de trahison. Enfin, c'est mon interprétation. Il appelle ces gens « les crétins dont parlent les ragots de Margot ».« Les ragots de Margot ?» répéta Nietzsche, très excité. Richard regarda alternativement les deux femmes. « Quelqu'un peut me dire ce que sont les ragots de Margot ?»«
C'est un livre, » répondit Burdine.
Richard leva un sourcil à l'attention de Nietzsche.
« Pas un livre banal, Richard. C'est un recueil de prophéties, si tu veux tout savoir, mais un recueil très spécial. Il est antérieur de 7 siècles aux Grandes Guerres. Nous en avions un exemplaire dans les catacombes du Palais des Prophètes. Toutes les sœurs, au cours de leur formation, étudiaient cette curiosité. »
Richard balaya du regard les livres alignés sur les rayonnages. « Et qu'a-t-il de si spécial, ce recueil ?»«
Toutes les prophéties sont des commérages, des rumeurs et des ragots, justement. »«
Désolé, mais je ne saisis pas très bien. »«
Eh bien, ces prédictions ne concernent pas des événements à venir, mais de futurs commérages. La Gazette des racontars des prochains millénaires, si tu préfères. »
Richard se frotta les yeux et soupira de lassitude. « Tu veux dire que l'auteur, un prophète, a couché sur le papier les ragots des temps futurs ?» Nietzsche acquiesça. « Dans quelle intention exactement ?»«
C'est la question que tout le monde se pose. »
Richard secoua la tête pour s'éclaircir les idées.
« Richard, il y a beaucoup de secrets dans l'histoire. Tiens, comme ce livre qui n'aurait pas dû être copié. Les secrets de ce type ne sont en principe jamais révélés, parce que les gens les emportent dans la tombe avec eux. Du coup, lorsque nous faisons des recherches historiques, il nous arrive de ne pas pouvoir résoudre un mystère parce que les informations requises sont manquantes. Dans certains cas, il existe des fragments d'informations, des choses entendues ou vues par des gens et au sujet desquels ils sont mis à affabuler. Quelques sœurs au palais des prophètes pensaient que ce livre, apparemment farfelu, était une mine de renseignements sur quelques-uns des mystères les plus incroyables de l'avenir.
« Tu veux dire qu'elle cherchait la vérité nichée dans les ragots ?»«
Quelque chose comme ça, oui. » Elle n'hésitait pas à dire que cet ouvrage était le recueil de prophéties le plus important de tous. D'ailleurs, elle veillait jalousement dessus. Contrairement à d'autres grimoires, il était interdit de le sortir des catacombes afin de l'étudier. Des sœurs apparemment très sérieuses consacraient presque tout leur temps libre à la lecture de ce petit livre, à première vue parfaitement idiot. Les auteurs sérieux n'accordant en général aucune attention aux rumeurs, on pense que les ragots de Margot sont le seul ouvrage de ce genre. L'unique compilation de racontars virtuels disponible en bibliothèque. Les sœurs que j'ai mentionnées affirmaient que certains événements ne pouvaient être étudiés, voire découverts, qu'à travers ce recueil, qui leur était largement antérieur. Selon elles, une partie des ragots finirait par advenir, nous révélant des détails capitaux sur des secrets futurs. Bref, les ragots de Margot, à leurs yeux, sont une porte ouverte sur de fabuleuses vérités cachées.
Peinant à assimiler ces informations plutôt étranges, Richard appuya le bout de ses doigts sur son front, comme pour faire entrer dans sa tête des notions qu'elle avait tendance à laisser patienter dehors. « Si je comprends bien, parmi les sœurs que tu as connues, certaines étaient fascinées par ce livre. »
Tu peux me citer des noms?
Eh bien, Ulyssia, pour commencer.
Génial, marmonna Richard. Birdie ouvrit la porte vitrée d'une petite bibliothèque et tira un ouvrage de ses rayons. Se tournant vers Richard et Nietzsche, elle leur montra la couverture. Les ragots de Margot.
Quand j'ai lu la remarque de Collot sur les crétins dont parlent les ragots de Margot, j'ai trouvé l'expression si bizarre qu'elle s'est gravée dans mon esprit. Vous connaissez ce phénomène, n'est-ce pas, Seigneur Hall? Bien plus tard, alors que je faisais des recherches ici, le titre de ce livre m'a frappé. Au début, je n'ai pas imaginé qu'il s'agissait d'un recueil de prophéties.
Nietzsche haussa nonchalamment une épaule.
Certains grimoires sont difficiles à identifier, surtout pour les néophytes. Des livres capitaux peuvent se présenter comme d'assommantes archives, ou, nous le voyons avec les ragots de Margot, sous l'aspect d'une bonne blague.
D'un geste circulaire, Burdine désigna tous les rayonnages de la pièce.
« On ne trouve rien de bien amusant sur ces étagères. »«
Très bien vu, » l'approuva Richard. Burdine sourit du compliment, puis elle posa son livre sur la table, l'ouvrit délicatement et tourna les pages jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un passage bien précis.
« Puisque Collot parlait de ce livre, je me suis dit qu'il était de mon devoir de le lire. » « Bon sang, ce qu'il est ennuyeux. J'ai failli m'endormir à chaque ligne. Rien ne semblait avoir la moindre importance. Jusqu'à ce que je tombe sur cette page. Et là, croyez-moi, ça m'a réveillé. »
Richard inclina la tête pour lire les mots que Burdine lui indiquait du bout d'un index. Ayant un peu perdu l'habitude du haut d'Aran, il lui fallut un moment pour déchiffrer le passage. Quand il eut terminé, il se gratta pensivement la tempe et traduisit à haute voix.
« Les crétins pompeux seront tellement nerveux quand ils copieront la clé qui n'aurait jamais dû l'être, qu'ils trembleront de peur devant leur propre audace et jetteront l'ombre de la clé parmi les ossements, afin qu'on ne sache jamais qu'un seul exemplaire fut réalisé correctement. »
Richard sentit tous les poils de sa nuque se hérisser. Kara croisa les bras sur sa poitrine, une posture typique quand elle était en ébullition.
« Si je comprends bien, » dit-elle, « les crétins n'ont fait qu'une copie fidèle, tout ça parce qu'ils crevaient de peur. »
Burdine lissa lentement sa longue natte de cheveux châtain brillant.
« On dirait bien, oui. »
Richard en était encore à tenter d'analyser les métaphores.
« Jeter l'ombre de la clé parmi les ossements. »
Ça veut sûrement dire « la cacher dans un des sites centraux. » Tu ne crois pas, Burdine? Une métaphore pour « enfouir avec les dépouilles. »
Seigneur Hall, quel plaisir de vous avoir de nouveau près de moi. Nous réfléchissons de la même manière et vous m'avez tant manqué. J'ai des dizaines d'autres énigmes à vous soumettre.
Richard passa un bras autour des épaules de la mort de Sith. Une façon de signifier qu'il éprouvait la même chose qu'elle. Burdine continua à feuilleter l'ouvrage, s'arrêtant lorsqu'elle tomba sur une page blanche.
« Il manque du texte dans presque tous les ouvrages, » dit-elle agacée.
« C'est un effet du sort d'oubli lancé par les sœurs de l'obscurité, »
annonça Nietzsche.
« La chaîne de flammes éradique toutes les prédictions relatives à l'épouse de Richard. »
Burdine prit le temps d'assimiler les propos de Nietzsche.
Voilà qui va encore nous compliquer les choses. Nous serons privés d'une multitude d'informations sans doute précieuses. Verna m'a dit qu'il manquait des passages dans beaucoup de grimoires, mais elle ignorait pourquoi.
Montre-moi tous les livres dans lesquels il manque du texte,
dit Nietzsche. Richard se demanda pourquoi elle paraissait si soupçonneuse. Burdine retira des rayonnages plusieurs volumes qu'elle tendit un par un à Nietzsche.
La magicienne posait chaque livre sur la table dès qu'elle avait fini de le feuilleter.
« Des prophéties encore et encore, »
lança-t-elle en laissant tomber sur la pile le dernier grimoire que lui avait remis Burdine.
« Ta conclusion ?»
demanda Richard. Au lieu de lui répondre, Nietzsche s'adressa à Burdine.
« Il y a encore des livres amputés ?»«
Un seul, »
répondit la mort de Sith. Après avoir jeté un bref coup d'œil à Richard,
Elle débarrassa toute une étagère de sa rangée de livres, puis fit coulisser un panneau de bois, révélant une petite niche dorée. Sans hésiter, elle s'empara du volume qui reposait sur un coussin de velours vert au liseré d'or. La couverture de cuir avait dû être rouge dans un lointain passé, car il restait encore quelques traces de cette couleur sur le dos. Plus petit que la moyenne des ouvrages, ce livre intriguait au premier coup d'œil, peut-être à cause de la qualité de sa reliure et des ornements qui rehaussaient la couverture. « Le seigneurial, je parle du précédent, me faisait souvent traduire des textes rédigés en haut d'Aran. Dans cette salle, il venait étudier ses trésors les plus secrets. Comme je l'assistais, j'ai découvert la cachette de la clé et l'existence de la niche que je viens d'ouvrir. Je pensais que ce livre déborderait de révélations. « Et tu as été déçu ?» demanda Richard. « Toujours le texte manquant, Seigneur. Et avec ce livre, c'est pire que tout, puisque tous les mots se sont volatilisés. Il ne reste que des pages blanches. »« Que des pages blanches ?» répéta Nietzsche. « Fais-moi voir ça. » Burdine tendit le petit grimoire à la magicienne. « Il n'y a rien, je vous le garantis. Voyez par vous-même. » Nietzsche ouvrit le volume et s'attarda un moment sur la première page. Puis, elle passa aux deux ou trois suivantes un index courant sur le parchemin comme si elle lisait.
« Par les esprits du bien ?»
murmura-t-elle.
« Que t'arrive-t-il » demanda Richard.
Burdine se hissa sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule de Nietzsche.
« Il n'y a rien, » dit-elle, « que des pages blanches. »«
Non, pas du tout, »
marmonna Nietzsche absorbé par sa lecture. Elle releva enfin les yeux.
« C'est un traité de magie. Les gens qui n'ont pas le don voient effectivement des pages blanches. Seuls peuvent le lire une magicienne ou un sorcier très puissant. Richard, c'est un texte fondamental. »
« Quoi ? »
s'écria Burdine, plissant comiquement le nez.
« Les traités de magie sont dangereux, et certains plus encore que d'autres. Celui-là est mortellement périlleux au minimum. Les livres de ce genre sont dotés de sorts de garde, et quand on les estime trop explosifs, un sortilège fait en sorte que les mots s'effacent de la mémoire trop vite pour qu'on se souvienne simplement de les avoir vus. Du coup, on pense que les pages sont blanches. Un profane ne peut tout simplement pas enregistrer le texte dans son esprit. En réalité, tu as vu les mots, mais en les oubliant beaucoup trop vite pour qu'ils se gravent dans ta mémoire. Ce sort est à la base de ce que nous appelons une chaîne de flammes. Le principe est le même. Il y a des millénaires, un sorcier imaginatif s'est demandé si le protocole d'oubli ne pouvait pas s'appliquer également à une personne.
Nietzsche baissa de nouveau les yeux sur le livre.
« Bien sûr, quand un être humain est concerné, les choses sont beaucoup plus compliquées. »
Richard savait depuis longtemps qu'il n'aurait pas pu mémoriser le grimoire des ombres recensées s'il n'avait pas eu le don. D'après Zed, il n'aurait même pas été capable de se souvenir du premier mot.
« De quoi parle ce livre, Nietzsche ?»
La magicienne leva de nouveau les yeux du texte, mais à regret.
« Ce sont des instructions magiques. »«
Tu as déjà dit qu'il s'agissait d'un traité, mais des instructions sur quel sujet ?»«
Eh bien, je crois que ce texte explique comment remettre dans le jeu les boîtes d'Ordaine. »
Un nouveau frisson courut le long de l'échine du sourcier. Il prit délicatement l'ouvrage des mains de Nietzsche. Pour sûr, les pages n'étaient pas blanches. Elles débordaient au contraire de textes, de diagrammes, de tableaux et d'équations.
« C'est du haut d'Aran, Nietzsche. Dois-je comprendre que tu sais lire cette langue ?»«
Bien sûr. »
Richard échangea un regard perplexe avec Burdine. Du premier coup d'œil, il avait vu que le traité était d'une incroyable complexité. Bien qu'il eût appris le haut d'Aran, le niveau de langue de cet ouvrage risquait de le dépasser.
« C'est bien plus technique que le haut d'Aran dont j'ai l'habitude, » dit-il en tournant lentement les pages.
Nietzsche se pencha et indiqua un passage.
C'est la nomenclature des formules requises pour les différentes incantations. Pour comprendre le texte, il faut avoir appris ces formules et connaître les sortilèges correspondants.
Et c'est ton cas ?
La magicienne eut une moue dubitative.
« Je ne sais pas. Après une lecture complète, je pourrais dire si je suis apte à le traduire. »
Burdine se hissa sur la pointe des pieds et jeta de nouveau un coup d'œil au livre, comme si elle espérait que les mots consentent à lui apparaître.
« Pourquoi ce délai ? » demanda-t-elle. « Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas, c'est aussi simple que ça. »«
Pas avec les traités de magie. C'est un peu comme les mathématiques supérieures. On reconnaît les chiffres, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut résoudre l'équation. Il suffit qu'un seul symbole vous soit inconnu pour que l'opération se révèle impossible. Quand il s'agit de travailler avec des inconnus, il est indispensable de maîtriser un certain processus de pensée. Et ça, on ne le sait qu'une fois le travail terminé. En simplifiant à l'extrême, c'est la même chose avec ce traité. Dans ces pages, il y a des références à d'anciens sortilèges que je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre. Une seule lacune et tout le processus sera bloqué. Le Haut-Daran n'arrange rien, car c'est une langue quasiment morte aujourd'hui. Et pour pimenter un peu la sauce, ce texte est rédigé dans un dialecte rarissime.
Richard prit le bras de Nietzsche pour attirer son attention.
« Mon ami, c'est capital. Crois-tu pouvoir réussir ? Dis-moi ce que tu sens, au plus profond de toi. »
La magicienne regarda le livre avec un rien de méfiance.
« Il me faudra du temps. Quand j'aurai traduit assez de pages, je serai en mesure de faire un pronostic. J'ai bien dit un pronostic. »
Richard referma le traité et le tendit à son ami. « Alors emporte-le avec toi. Ça te donnera plus de temps pour l'étudier et découvrir la clé de l'énigme. »
« Quelle clé ? Que veux-tu dire ?
Tu ne comprends donc pas ? C'est peut-être la réponse que nous cherchons.
Si tu comprends ce texte, ça nous permettra sans doute de défaire tout ce qu'a fait Ulyssia et de retirer du jeu les boîtes d'Ordaine. »
Nietzsche passa lentement un pouce sur la couverture du petit traité.
« Ce que tu dis paraît logique, Richard. Mais savoir faire quelque chose ne veut pas dire qu'on sait aussi le défaire. »
« C'est comme essayer de ne plus être enceinte quand on l'est ?»
demanda Kara.
« Quelque chose comme ça, oui. »
La métaphore très inattendue de la mort de Sith ramena à la mémoire de Richard un souvenir cruel. Kalan avait été enceinte, mais des brutes lui avaient tendu une embuscade afin de l'abattre comme plâtre. Sans le sourcier, elle n'aurait pas survécu, mais elle avait perdu l'enfant avant même d'avoir pu en parler à son mari. La revoir si grièvement blessée, méconnaissable au point qu'il l'avait prise pour un voyageur agressé, serra le cœur de Richard. Au prix d'un gros effort, il chassa de son esprit cette image poignante. Depuis la disparition de Kalan, il passait son temps à bannir des images, aussi bien des moments heureux que des heures sombres. Un jour, il devrait sans doute payer le prix de l'inhumaine discipline qu'il s'imposait. Un jour, oui. Et il verrait bien quand ça arriverait. Nietzsche plissa le front d'inquiétude, car elle venait de voir de l'angoisse passer sur le visage du sourcier. Qui fit mine d'ignorer la sollicitude de la magicienne ?
Nietzsche, inutile que je te rappelle à quel point c'est important, n'est-ce pas ?
L'ancienne maîtresse de la mort soutint le regard de son ami. Elle pensait ne pas être en mesure de réussir, mais comment lui dire une chose pareille ? Comment décevoir quelqu'un qui vous faisait une telle confiance ?
Je m'efforcerai d'y arriver, Richard, promit-elle.
Soudain, son visage s'éclaira et elle eut un sourire sincère. Ouvrant le livre, elle le feuilleta jusqu'à la dernière page sur laquelle elle s'attarda un moment.
« Voilà qui est intéressant. »«
Quoi donc ?»
Nietzsche leva les yeux du passage qu'elle disait.
« Eh bien, à la fin de certains traités, les plus sensibles bien sûr, l'auteur fait parfois allusion à une étape essentielle de son protocole. Une action très importante, mais présentée à part, » comme si elle ne faisait pas vraiment partie de la marche à suivre. Une précaution contre les lecteurs mal intentionnés. Si c'est le cas ici, nous pourrons interrompre la chaîne d'action requise, même si les boîtes d'Ordaine sont déjà dans le jeu. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand un ouvrage est vraiment dangereux, il n'est pas complet, et il faut aller chercher ailleurs les éléments qui manquent.
Chercher ailleurs, mais quoi et où ?
Je n'en sais rien. « C'est justement ça que je cherche à vérifier. Laisse-moi lire ce paragraphe. »
Nietzsche se concentra. Puis, elle leva les yeux et tapota la page.
« J'avais raison.
Pour utiliser ce livre, il faut détenir la clé et s'en servir, sinon toutes les étapes précédentes seront non seulement inutiles, mais surtout mortelles. Dans un délai d'un an, est-il écrit, la clé devra compléter ce qui aura été mis en route grâce au livre.
La clé, répéta Richard d'un ton sinistre. Il consulta Burdine du regard.
La mort de Sid comprit ce qu'il attendait d'elle et récita.
Les crétins pompeux seront tellement nerveux quand ils copieront la clé qui n'aurait jamais dû l'être, qu'ils trembleront de peur devant leur propre audace et jetteront l'ombre de la clé parmi les ossements.
Seigneur Hall, vous pensez que ça parle de la clé en question?
Quelque chose s'éveilla tout au fond de l'esprit du sourcier. S'il faisait un effort, la réponse était à portée de main, n'attendant que son bon vouloir.
Soudain, il comprit tout.
Si la foudre l'avait frappé, il en aurait probablement été moissonné.
Par les esprits du bien.
Richard, que t'arrive-t-il? S'inquiéta Nietzsche.
Tu es pâle comme un mort.
Le sourcier eut du mal à convaincre ses cordes vocales de fonctionner.
Je dois retourner auprès de Z.
La magicienne posa une main sur le bras de son ami.
Je sais, mais qu'y a-t-il de nouveau?
Je sais ce qu'est la clé.
Le cœur battant la chamade, Richard avait du mal à respirer.
Toutes ses certitudes s'écroulaient et le monde se désintégrait autour de lui. L'oxygène semblait se refuser à ses poumons.
Les crétins pompeux seront tellement nerveux quand ils copieront la clé qui n'aurait jamais dû l'être, qu'ils trembleront de peur devant leur propre audace et jetteront l'ombre de la clé parmi les ossements.
Eh bien, qu'as-tu découvert qui...
Je t'expliquerai quand nous serons de retour à la forteresse. Dépêchons-nous de partir.
Très inquiète, Nietzsche glissa le livre dans une des poches de sa célèbre robe noire.
Richard, je trouverai. Quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux, c'est promis.
Richard acquiesça distraitement, trop occupé à mettre les pièces du puzzle en place dans son esprit. Avec ce qu'il venait de comprendre, il lui semblait être un bébé sur le point de faire ses premiers pas. Prenant Burdine par le poignet, il s'écria
« Paracus avait une bibliothèque secrète. Il faut que tu la localises. »«
Oui, Seigneur Hall, je verrai ce que je peux découvrir. Moi aussi, je ferai de mon mieux. »
La mort de Sid baissa les yeux sur la main qui lui broyait le poignet. Comprenant qu'il lui faisait mal, Richard lâcha son innocente victime.
« Merci, Burdine. Je sais que je peux compter sur toi. »« Bien. » Je dois parler à Z le plus vite possible. Il faut que je sache où il l'a trouvé.
Trouver quoi, Richard?
Demanda Nietzsche. Elle plaqua une main sur la poitrine du sourcier pour l'empêcher de franchir la porte.
Richard, qu'est-ce qui te...
Plus tard, quand nous serons à la forteresse. Pour le moment, j'ai besoin de réfléchir à tout ça.
Nietzsche et Kara échangèrent un regard inquiet.
Très bien, Richard, calme-toi. Nous serons très bientôt auprès de ton grand-père.
Richard saisit Kara par l'épaule et la poussa devant lui.
« Guide-nous jusqu'à la Slif, par le plus court chemin, s'il te plaît. »«
Suivez-moi, Seigneur, »
lança la mort de Sid. D'un coup de poignet, elle fit voler son agiel dans sa paume. Richard se tourna vers Burdine, qui trottinait derrière lui.
« Trouve toutes les informations disponibles sur Baracus. Je veux tout savoir sur lui. »«
À vos ordres, Seigneur Hall. » »«
Verna sera bientôt ici. Dis-lui qu'elle a ordre de t'aider. » Que les sœurs de la lumière s'y mettent aussi. Lisez tous les livres du palais s'il le faut, mais dénichez-moi des informations sur Baracus. Où il est né, qui l'a élevé, ce qu'il aimait et ce qu'il détestait. On écrit toujours beaucoup sur les premiers sorciers, donc il y a forcément des textes de référence. Trouvez le nom de son coiffeur, de son tailleur et de son cordonnier. Dites-moi quelle était sa couleur préférée. Rien ne doit vous paraître trop banal pour être noté, c'est compris ? Tant que vous y êtes, essayez de savoir ce qu'ont fait les crétins dont parlent les ragots de Margot.
« Seigneur Hall, » dit Burdine, « faites-moi confiance. Je retournerai le palais si nécessaire, mais vous aurez les réponses à vos questions. »
Richard prit la main de Nietzsche pour être sûr qu'elle suivrait le rythme, puis il cria à Kara
« On presse le pas !»
Agiel au point, Burdine décida de constituer l'arrière-garde. Richard passa devant Trimac et ses soldats sans vraiment les voir. Il ne s'aperçut pas davantage que ses fidèles, parmi les fidèles, lui emboîtèrent aussitôt le pas, prêts à lui faire un bouclier de leur corps si c'était le gardien en personne qui le poursuivait.
En courant, Richard arriva à la conclusion qu'il ferait mieux d'aller d'abord à Casca. Plus il réfléchissait, et plus cette idée le séduisait. Grâce à la Sliff, il pourrait ensuite gagner très rapidement la forteresse. Non. Finalement, voir Z d'abord était plus urgent. Ensuite, la Sliff le conduirait en un éclair à Casca. À moins que... Alors que la petite colonne remontait les couloirs au pas de course, Richard entendit une sonnerie de cloche. C'était l'heure des dévotions, une cérémonie à laquelle tous les darans étaient tenus d'assister. Le sourcier se demanda si ses fidèles ne seraient pas bientôt agenouillés devant le gardien du royaume des morts, récitant pour ce maître-là une toute autre variété de dévotions.